Avec en direct par téléphone Guillaume Cosmiki. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir, merci de m'inviter.
Nous allons parler de votre dernier livre épais qui s'appelle Free Party, qui vient sortir aux éditions Le Mot et le Reste. Un livre de témoignages. Vous intéressez au parcours de plusieurs dizaines de personnages. C'est avant tout cela qui vous a intéressé pour ce livre, le parcours personnel.
Tout à fait. En fait, effectivement, il y a un peu plus d'une quarantaine de témoins qui sont interviewés. Et disons que ça a fait suite à une conversation avec mon éditeur, donc Yves Jolivet, qui m'avait demandé en fait de travailler sur une histoire du mouvement Free Party qui déjà est en France depuis plus d'une quinzaine d'années, et puis on peut situer ses origines à peu près à une vingtaine d'années déjà. Et donc Yves Jolivet m'avait demandé de le faire plus sur le point de vue de rencontres et de témoignages de parcours personnel d'acteurs de ce mouvement, plus que sur une histoire un petit peu officielle, un petit peu peut-être un peu pompeuse pour ce mouvement, puisqu'on a la chance d'avoir des acteurs qui sont encore très présents, très avides de parler de leur expérience, de parler de ce qu'ils ont pu faire au travers de ce mouvement, qui a été un mouvement très underground, donc très camouflé, très caché, et dans lequel finalement les gens ne parlaient pas beaucoup, par volonté en fait aux médias, ne s'exposaient pas vraiment. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à même d'en parler, de raconter leur histoire, et leurs témoignages effectivement sont très très riches. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de faire de ce point de vue-là, donc de partir à la rencontre de gens que j'avais croisés pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre eux dans mon parcours, dans mes recherches depuis quelques années déjà, et de les faire donc parler de leur expérience, de leur vie. Donc je suis parti d'assez loin, généralement, de leur découverte, de leurs origines quasiment musicales ou de leurs goûts musicaux, et savoir en fait comment ils avaient découvert ce mouvement et comment finalement ça avait pu orienter leur parcours, voire changer leur vie.
Donc un livre de témoignages qui pouvait surprendre au demeurant, puisque vous êtes également, enfin vous êtes surtout connu pour être théoricien de la musique. Vous avez publié chez ce même éditeur, Le Mot et le Reste, un livre intéressant, Karl, qu'on avait chroniqué ici.
Sur les musiques électroniques, effectivement.
Un livre donc théorique, et là soudain, l'aspect théorique n'est pas là.
Il n'est pas là, c'est vrai. C'est-à-dire que je me contente, même si c'est pas une mince affaire, ça a été quand même un gros travail, je me contente de mettre en scène en fait ces différents témoignages, et surtout d'introduire, de faire quand même des petits chapeaux, des liaisons entre chacun de ces témoins, donc ces 40 témoins, dans ce long, très long parcours de 20 années.
Fallait bien commencer, et fallait commencer par les Spiral Tribe. Formidablement, les Spiral Tribe ont c'est presque une légende urbaine. Beaucoup les appelaient les SPI. Parlez-nous des Spiral Tribe, comment vous les avez rencontrés?
C'est une légende, c'est un mythe, bon, surtout en France, c'est vrai. J'ai commencé par eux dans le livre, effectivement, parce qu'ils sont très importants dans les témoignages de nombreux acteurs français sur le sujet. J'ai quand même précisé, notamment au travers d'une chronologie, que c'était pas les seuls, loin de là. Ils venaient quand même du mouvement rave en Angleterre, où déjà il y avait eu beaucoup de tentatives d'une techno un peu plus libre, de manière de faire un peu plus libre. Mais c'est vrai que c'est eux qui ont eu cet impact très très fort sur les Français. Cet impact très fort parce qu'ils ont été parmi les premiers sons à proposer ces fameuses pratiques, ces fameuses free parties donc sur notre territoire, et qu'ils l'ont parcouru surtout sur Paris, sur le sud, autour des grandes villes, Marseille, Montpellier, mais aussi ailleurs en Europe. Et comme ça a été un peu les premiers, c'est vrai qu'ils ont été pris en modèle par beaucoup, tout en précisant qu'il y avait aussi d'autres sound systems comme Bedlam, comme Desert Storm un peu plus tard, et d'autres Anglais qui étaient venus, qui en avaient voilà, qui avaient exposé, qui avaient montré ces manières de faire, ces différentes pratiques à des tas de jeunes gens qui les ont suivis par la suite. Moi, pour la rencontre, eh bien, ça s'est fait en fait dans le cadre de mes premières découvertes de Free Party. C'est pas les premiers sound systems que j'ai rencontrés. Moi, j'ai pris ce mouvement, on va dire, en 95. Donc pas dans les tout premiers, ils étaient en France un peu plus tôt, mais c'est vrai qu'assez rapidement dans cet univers qui était assez restreint au début, eh bien on tombait sur ces personnes, on tombait sur ce sound system, que ce soit sous la forme véritablement du sound system et de leur free party, ou que ce soit au travers de quelques musiciens d'entre eux qui réalisaient des performances dans différentes fêtes. Moi, pour ma première fête, pour la petite histoire, c'était des Psychatrix, en fait, les Psychatrix qui étaient un sound system parisien et qui a été parmi les premiers sound systems français à suivre ce modèle des Spiral Tribe.
Vous êtes un musicologue, vous étudiez la musique à ce moment-là, dans les années 1995. Comment est-ce que vous entrez dans ce mouvement, vous qui avez étudié la musique, qui pratiquiez du violon, je crois? Comment êtes-vous rentré là-dedans, dans un système, on va dire, qui est éloigné des concepts musicaux courants?
On va dire courant ou qu'on prêterait habituellement comme intérêt à un musicologue. C'est peut-être ça que vous voulez dire. En fait, ça s'est passé même avant que je ne me penche sur la recherche musicale. Moi, j'étais en licence donc de musicologie à Aix-en-Provence. Et donc, comme tout étudiant qui se respecte, je sortais pas mal, j'allais dans des soirées musicales, je faisais aussi de la guitare, donc vous avez dit du violon, mais c'est vrai que je faisais aussi du rock, je faisais du punk, je pratiquais d'autres genres musicaux, je m'intéressais à d'autres styles musicaux. Et en fait, par hasard, j'ai rencontré, en revenant d'une soirée très tardive dans le centre-ville, en revenant sur les CTU, j'ai croisé un camion qui s'est arrêté. Je connaissais déjà la rave, j'avais déjà été interpellé par ces pratiques qui commençaient à exploser en France. Et ce camion s'est arrêté à notre niveau, il nous a donné un petit flyer, un petit prospectus donc photocopié, et c'était une free party. Alors j'avais entendu parler de ça, j'en avais entendu parler par des amis étudiants qui étaient allés eux-mêmes fréquenter ces événements, notamment sur Paris ou dans d'autres endroits. Et voilà, j'étais assez content, on était tous les trois assez contents de voir que ça se faisait aussi dans notre coin. Et on s'est dit tout de suite qu'on allait y aller. Et c'est ce qu'on a fait, on a eu cette découverte. Et j'en ai parlé en fait avec Jean-Marie Jaconneau, qui était mon enseignant, celui qui m'ouvrait à beaucoup d'autres domaines de la musicologie, qui était la sociologie de la musique. Donc des études de musique beaucoup plus actuelles, beaucoup plus proches de nous, de pratiques toujours vivantes, toujours présentes, et qui m'a dit tout de suite, moi j'avais effectivement dans l'idée de travailler sur d'autres sujets, on va dire sur des musiques contemporaines peut-être, ou d'autres sujets, mais qui étaient quand même assez éloignés de ces musiques populaires, de ces pratiques populaires, et lui m'a dit tout de suite que c'était très intéressant. Lui aussi avait entendu parler de ces fêtes et il m'a dit comme vous avez la chance de les fréquenter, comme vous avez la chance d'y avoir mis un pied, je pense que l'année prochaine vous pourriez mener une maîtrise là-dessus. Et donc mon année de maîtrise c'était 95-96. J'étais en 94, je découvrais ces fêtes. 95, je faisais des free parties et j'ai dit pourquoi pas effectivement les observer aussi sous cet aspect-là, un aspect plus scientifique. Et c'est ce que j'ai réalisé en fait avec son aide, hein, Jean-Marie Jaconneau, avec ses conseils. J'ai suivi ces fêtes avec une double casquette. En fait, j'étais quelque part très interpellé, très intéressé par les pratiques alternatives, par les revendications non verbalisées, par l'action, par les méthodes d'installation assez particulières de ces événements. Et donc j'y allais en tant que teufeur, c'est vrai, mais aussi j'y allais parfois avec mon carnet de notes, avec mon appareil photo, avec les différents ustensiles, donc quasiment de l'ethnomusicologue, et je réalisais des entretiens, je rencontrais rencontrer donc différentes personnes que j'allais revoir entre les fêtes. J'affinais un petit peu mon observation de ce monde-là. Donc j'ai eu cette quelque part, je pense que c'est une chance aussi d'avoir étudié ce mouvement sous ces deux aspects. D'avoir approché ce mouvement sous ces deux aspects, parce que ça m'a permis aussi de conserver de très très nombreuses traces, des flyers, des documents, des récits de parcours, de vie, de voyage, etc., que beaucoup des gens que j'ai rencontrés, eh bien, pour cet ouvrage dont nous parlons ce soir, finalement avaient en grande partie oublié, parce qu'eux n'étaient pas dans cette culture de noter, de conserver, de garder tout cela. Et ça a beaucoup aidé en fait à nos contacts et à nos échanges en fait sur ce parcours donc qu'ils regardaient, sur ce passé en fait qu'ils avaient quitté, parce que moi j'avais pas mal d'éléments, on va dire, assez objectifs, de dates à leur soumettre et à leur présenter. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas un ouvrage qui est fondamentalement musicologique, mais mon parcours de chercheur, en tout cas dans ce domaine-là depuis 95-96, a pu servir en tout cas largement à établir ces témoignages et à les faire sortir, à les compléter et à les mettre en forme.
On parlait de photos à l'instant, en fait, l'ouvrage en contient de très belles. Est-ce que vous avez été le seul en fait à les collecter, ou est-ce qu'elles proviennent aussi de gens que vous avez interviewés?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos qui sont issues de mes propres clichés, mais moi je suis absolument pas un photographe. Alors par hasard, je pourrais dire ça comme ça, il y a dans les centaines de photos, parce que j'en ai fait quand même pas mal, il y en a quelques-unes qui sont assez belles et qui ont mérité qu'on les mette de côté, qu'on les conserve. Ouais. Mais j'ai effectivement demandé à chacun des témoins de mettre de côté quelques-uns de leurs plus beaux clichés. Alors dans pas mal de cas, j'ai pu effectivement aussi, avec l'édition, donc Le Mot et le Reste, les choisir et les intégrer à l'ensemble. Et puis, parmi les contacts que j'ai pu faire autour de ces différentes rencontres dans la Free Party et les contacts récents aussi, j'ai pu susciter aussi la participation d'autres photographes qui ont vu quelques clichés aussi intégrés à l'ouvrage.
Alors, votre livre, vous l'avez expliqué tout à l'heure, il intéresse la sociologie. C'est à la fois un livre d'un musicologue, mais aussi quelque part d'un sociologue. Ce livre pourrait être pris comme un livre aussi de sociologie. Est-ce que vous l'avez fabriqué dans ce sens-là également ?
Alors, il n'a pas été fabriqué, ça c'est les éditions Le Mot Le Reste, en fait, ont cette optique. C'est mon éditeur qui leur donne cette direction, d'être sérieux, en fait, de ne pas survoler les sujets, de ne pas s'arrêter à l'anecdotique, mais de ne pas non plus aller trop loin dans les concepts, dans un langage qui soit trop universitaire. Et donc je pense que c'est dans cette voie en fait que j'ai rédigé l'ouvrage, à savoir qu'effectivement ça pourrait se rapprocher, se rattacher à la sociologie. Ça peut parfois aussi, par certaines considérations, se rapprocher de certaines considérations musicologiques, parce que sociologie et musicologie souvent se rapprochent, en tout cas dans ces sujets-là. Mais ce n'est pas un ouvrage scientifique, déjà. Ça pourrait, en tout cas, servir à des raisonnements, à des conclusions, à différentes règles que pourrait effectivement tirer un sociologue de ces différents écrits. Mais c'est pas du tout la portée, en tout cas, que j'ai voulu donner à l'ouvrage. En tout cas, c'est vraiment basé sur le témoignage, basé sur le vécu. C'est un ouvrage, vous l'avez dit, qui est assez conséquent. C'est vrai qu'il fait un gros nombre de pages, mais on a été surpris, moi en premier lieu, puis après, c'est vrai, mon éditeur assez rapidement, on a été surpris du volume qu'il a pris, parce qu'en fait, surtout quand je le relisais, quand je travaillais là-dessus, et quand certains de mes amis le relisaient, travaillaient aussi sur cette relecture, on s'est jamais rendu compte à aucun moment, avant que tout soit assemblé, tout soit réuni, qu'il faisait autant de pages. Il fait plus de 700 pages, vous avez dû le remarquer. Et en fait, ça se lit assez bien du fait de cette succession justement de témoignages de vécu, de langage assez simple en fait à comprendre, puisque ce sont simplement des gens qui se racontent.
Et C'est pour ça que je parlais de sociologie, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui se racontent, mais c'est après l'organisation de ces témoignages, l'organisation du livre. Vous faites un découpage chronologique, mais il y a à l'intérieur de ce découpage chronologique, qui commence par la découverte, puis qui va jusqu'à la fin, vers le et après, vers ce qui se passe actuellement, ou vers le et après de ces personnes qui ont été les initiateurs de ce mouvement. Dans le découpage chronologique, il y a des agencements de témoignages. Dans ce découpage chronologique du début vers la fin, il y a des agencements de témoignages. Et c'est dans ces agencements de témoignages où là, vous entrez de plein pied. C'est là où on sent presque, enfin moi, où je vous ai presque senti sociologue, parce que la manière dont vous les placez les uns vis-à-vis des autres, et c'est presque des dialogues en fait. Souvent, on a l'impression que ce sont des dialogues, même si ça donne peut-être même si vous les avez faits de manière artificielle.
Absolument. Alors souvent j'ai favorisé ces moments d'échange virtuel, puisque les personnes n'étaient pas face à face. La collecte des témoignages a duré à peu près 1 an, en différents endroits. Donc évidemment, les gens n'étaient pas, les 40 personnes n'étaient pas face à moi. J'ai favorisé ces croisements, j'ai favorisé ces moments d'échange sur un même événement, par exemple, ou sur un même thème. Mais effectivement, la mise en forme de tous ces témoignages a été un casse-tête, bon, que je présageais, hein, au départ. Un casse-tête parce qu'en fait, ça croise différentes chronologies. Ça croise à la fois la chronologie du mouvement en lui-même, à savoir un mouvement, comme je le disais au début de notre conversation, qui a une vingtaine d'années, hein, une quinzaine ou une vingtaine d'années à peu près. Et cette chronologie, donc, on aurait pu, enfin, j'aurais pu la respecter scrupuleusement, mais ça aurait été très difficile d'y replacer justement les chronologies personnelles aussi qui s'insèrent à l'intérieur de ce mouvement. Les chronologies personnelles des différents témoins que j'ai abordés. Et c'est pour ça que j'ai choisi, donc, au travers de trois grandes parties, donc la découverte, comme vous en parliez, mais aussi franchir le pas, donc qui manifeste le moment où de cette découverte, de cet émerveillement premier qui caractérise la plupart des premiers contacts avec ce type de fête. À partir de là, en fait, les gens changent leur vie, changent leur façon de faire, s'investissent complètement, voire s'investissent jusqu'à quitter des règles de vie généralement et les plus suivies, des règles sédentaires, des règles avec un appartement, une maison, enfin un lieu où l'on exerce une profession éventuellement, et ils choisissent par exemple de prendre la route. Donc ça a été l'objet de cette deuxième grande partie, le franchir le pas. Et une troisième partie qui concerne en fait le moment où les gens continuent dans cette voie-là, soit au contraire transforment finalement cette découverte et cette expérience qu'ils y ont vécue en s'ouvrant vers d'autres horizons ou en continuant dans d'autres directions. Donc finalement, au travers de ces trois grandes parties, j'ai respecté plus ou moins les chronologies personnelles. Mais ces chronologies personnelles, elles concernent des découvertes ou des moments d'adoption de cet univers de la Free Party qui se répartissent eux-mêmes sur les 15 à 20 années d'existence du mouvement. Donc finalement, dans ces trois parties qui reproduisent plus ou moins des chronologies personnelles, finalement, les personnes qui s'y croisent sont des personnes qui découvrent le mouvement à des moments très très différents ou qui s'y investissent à des moments très très différents. Alors ça a été voilà toute l'idée du classement de ces témoignages, des répartitions de ces témoignages, ça a été justement de respecter plus ou moins voilà des chronologies qui en vérité ne se respectent pas vraiment, en vérité tombent à des moments très très différents.
Est-ce que le fait, en fait, de se remémorer ces souvenirs, ces anecdotes avec tous ces acteurs leur a donné dans leur tête l'idée d'ouvrir un quatrième chapitre?
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Bah, vous parliez de trois parties, en fait. Est-ce que à l'avenir, en fait, ils avaient envie, pour la plupart, en fait, de s'y remettre, de repartir sur des organisations ou...
Disons que ça a rafraîchi beaucoup de souvenirs chez certains. Pas mal des gens qui sont parmi les plus anciens et les plus investis m'avaient prévenu en me disant que leur témoignage serait sûrement très défaitiste, parce qu'ils étaient très déçus de la tournure qu'avait pris le mouvement, de finalement de rêves qu'ils n'avaient pas réussi à assouvir, à atteindre, de buts comme ça qui étaient des buts peut-être de jeunesse très utopiques. Et lorsqu'ils en ont parlé, en fait, j'ai toujours tourné la conversation pour sortir souvent des choses assez positives, pas uniquement, hein, parce qu'on a aussi dans l'ouvrage une bonne part de glauques et de choses assez décevantes. Mais au-delà de ça, c'est vrai que beaucoup de ces témoins, finalement, se sont rappelés un temps qui a été très heureux pour eux. Et ont été heureux, et me l'ont dit par la suite, ont été heureux de pouvoir en parler, et ça leur a remué pas mal de choses, pas mal de souvenirs anciens. Alors ouvrir un quatrième chapitre, une quatrième partie, je pense pas du tout que ça a été le cas, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est manifesté, mais en tout cas, ça a permis pour beaucoup, et je le dirais très personnellement, pour moi aussi, ça a permis en tout cas un véritable bilan sur ce parcours et sur cette partie importante quand même de leur vie, assez structurante pour finalement les activités qu'ils ont pu suivre par la suite. Et le troisième chapitre, donc, et après, montre bien d'ailleurs une grande diversité de parcours, une grande diversité de choix qui ont été faits à la sortie du mouvement. Voilà, cette troisième partie montre bien qu'un choix de vie a été fait, une orientation a été faite, et il n'y a pas nécessité, il n'y a pas volonté non plus de revenir, en tout cas, dans ce qu'a été la free party. Pour eux, pour la plupart, c'est quelque chose qui est bel et bien fini. Je dis bien pour la plupart parce que c'est vrai qu'on a aussi des témoins, j'ai aussi choisi des témoins qui sont encore actuellement membres de Sound System et qui réalisent encore des free parties ou des fêtes d'un genre nouveau, parce que forcément elles sont d'un genre nouveau, les choses ayant changé, et oui, notamment en France au niveau légal.
Vous qui êtes musicologue, en quoi le mouvement des free parties est-il une coupure des autres mouvements musicaux antérieurs ?
Au départ, quand j'ai travaillé donc dans le cadre de ma maîtrise, 95-96, je travaillais sur les raves en général. C'est vrai qu'en même temps, la séparation entre le mouvement free party et le mouvement rave n'était pas forcément consommée. Il y a d'ailleurs une partie que j'ai trouvée très intéressante à mener dans l'ouvrage, qui concerne justement ces rapports entre rave et free party. Et au départ, en fait, ces deux mouvements avaient des valeurs qui étaient très proches, à part, bien entendu, une certaine volonté de reconnaissance et une volonté parfois un peu plus donc de rentabilité dans certains cas, les valeurs étaient généralement très très proches. Donc moi, au départ, je me suis intéressé à ce mouvement en général, à la rave en général, et c'est assez rapidement, dans le cadre de mon DEA et dans le cadre des recherches qui ont suivi, que je me suis tourné vers la free party, parce que j'ai trouvé qu'effectivement les volontés, les attitudes des acteurs étaient beaucoup plus dans une recherche d'alternatives, dans une recherche d'engagement, d'engagement éventuellement même politique, mais qui ne déclarait pas qui n'utilisait d'ailleurs jamais ce terme-là. Et en tant que musicologue, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai trouvé de grandes similitudes, en tout cas dans les constructions musicales, dans les gestes musicaux, dans la manière de diffuser la musique, dans la manière de partager la musique, dans la manière d'oublier quelque part le créateur musical, de remettre en cause la notion de propriété intellectuelle telle qu'elle domine dans notre société occidentale, tout cela dans une musique, donc dans la musique de la free party, dans la musique techno en général. Je le répète, c'était le cas dans les deux mouvements, dans les deux aspects, rave et free party au début, mais c'est vrai que la free party a été plus radicale, plus engagée, plus alternative, plus utopique aussi, et elle m'a intéressé énormément en tant que musicologue, parce que vraiment je trouvais des liens très très forts entre les valeurs d'un mouvement, les valeurs des acteurs, des musiciens, des gens qui s'engageaient à l'intérieur, et finalement les manières de construire musicalement les musiques et de les diffuser, finalement qui animaient ce mouvement.
Vous-même, vous y avez donc été actif dans ce mouvement, vous y avez participé musicalement également ?
Absolument. En fait, c'est un petit peu l'attitude de l'ethnomusicologue qui, à partir du moment où il s'intéresse à une culture, l'ethnomusicologue, on l'imagine souvent loin de son pays, dans une dimension un peu exotique, mais je peux vous assurer que au départ, en tout cas, les free parties, c'était quelque chose de particulièrement exotique, quand bien même elles se passaient en France, hein. C'était quelque chose qui faisait vraiment sortir de sa condition, sortir de son milieu. Et lorsque l'ethnomusicologue généralement s'intéresse à une musique, lui-même étant musicien normalement, hein, va s'intéresser aussi à la pratique de cette musique. Alors moi, ça faisait un moment que je m'intéressais, avant même de découvrir les raves, bien à tout ce qui était instruments électroniques, synthétiseurs, boîtes à rythme, séquenceurs, etc. Et c'est tout naturellement que je me suis intéressé à la manière dont les musiciens eux-mêmes faisaient cette musique-là. Donc je m'étais déjà un peu équipé, j'ai enrichi cet équipement et assez rapidement, mais je me suis retrouvé aussi à jouer dans le cadre de ces free parties. Déjà par plaisir, c'est vrai, mais aussi pour comprendre, pour voir un peu ce que ressentaient les musiciens, quels étaient les rapports qu'ils établissaient avec les danseurs, avec les gens autour de cela. Donc toujours avec cette fameuse double casquette dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été la double casquette de ma découverte personnelle.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Cosmiki.